Bienvenue sur Fréquence Mistral à mes invités. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est le milieu ouvert. On reviendra peut-être un petit peu quand même sur l'aménagement de peine, puisqu'on a vu ça la semaine dernière sur cette même antenne. Donc pour aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir, on va commencer par vous, Denis Vesbuche, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juge d'application des peines du 05. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis Cécile Castelli, directrice du SPIP 05, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation, bonjour.
Bonjour.
Et puis Fabienne Useglio, donc directrice du SPIP 04, bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence par vous, Denis Vesbuche, pour nous donner le rôle d'un juge d'application des peines.
Eh bien, donc, un juge d'application des peines est déjà un magistrat du siège, c'est-à-dire précisément un juge qui prend des décisions juridictionnelles. Il intervient à la fin de la chaîne pénale, c'est-à-dire une fois que les enquêtes ont été menées, que le tribunal a été saisi, qu'il a prononcé de façon définitive une peine. Donc le juge d'application des peines va être en charge de deux choses, d'aménager les peines fermes qui ont été prononcées et d'assurer le contrôle des mesures de probation, c'est-à-dire des mesures qui n'entraînent pas une incarcération immédiate. Alors aménager une peine, c'est plusieurs choses. C'est les aménager sous forme de placement sous surveillance électronique, ce qu'on appelle le bracelet électronique. C'est la semi-liberté, le placement extérieur ou ce que l'on appelle des conversions, c'est-à-dire transformer la peine en travail d'intérêt général ou en jour amende. En ce qui concerne le contrôle des mesures, c'est ce que j'appelle de façon un peu globale les mesures de probation, c'est le sursis avec mise à l'épreuve, le sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, les libérations conditionnelles, pour être synthétique, c'est-à-dire ce sont des mesures dans lesquelles la personne ne va pas en détention, mais reste soumise au contrôle de la justice, et précisément du service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui a pour mission de contrôler, de s'assurer du bon déroulement de ces mesures. Voilà pour être synthétique sur la question.
Alors, on va revenir sur le service pénitentiaire d'insertion et de probation, vos missions.
Alors, le service pénitentiaire d'insertion et de probation est un service qui est rattaché au ministère de la Justice et qui dépend de l'administration pénitentiaire. Donc, d'un côté, l'administration pénitentiaire, il va y avoir le personnel qui intervient en maison d'arrêt avec sa hiérarchie propre. Et d'un autre côté, les services pénitentiaires d'insertion et de probation également avec leur hiérarchie propre. En milieu ouvert, nous intervenons sur saisine du juge de l'application des peines, qui va, lorsqu'une mesure de milieu ouvert est prononcée, notifier les obligations à la personne et ensuite nous saisir, nous, service pénitentiaire d'insertion et de probation, pour que nous assurions le suivi de cette personne, nous assurer que les obligations sont bien respectées et également accompagner la personne tout au long de sa peine pour lui permettre d'avancer, de réfléchir à son acte, et d'essayer de résoudre tous les problèmes qui peuvent se présenter.
Alors, ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, hors antenne, c'est que l'essentiel des condamnations, ce n'est pas forcément un synonyme de détention.
Effectivement, sur le volume de travail du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le volume d'activité que représentent les deux maisons d'arrêt de Digne et de Gap sont loin d'être l'essentiel de notre activité. Si je prends l'exemple des Hautes-Alpes, la maison d'arrêt de Gap compte 35 places. Le nombre de suivis en milieu ouvert, c'est à l'heure actuelle environ 400 personnes. Donc on voit bien qu'on a 35 personnes à l'intérieur de la détention et qu'on en a 400 à l'extérieur. Donc le mythe selon lequel condamné s'est incarcéré reste un mythe et la réalité est très différente. Donc effectivement, l'enjeu du travail sur le milieu ouvert est très important pour notre service et notre quotidien de travail, qui s'organise de manière très différente, puisque prendre en charge une personne placée sous main de justice dans le cadre du milieu ouvert, c'est très différent que de le faire dans un établissement pénitentiaire où la personne elle est contrainte, captive par définition, et donc le quotidien de travail est très différent.
Et alors pour Digne ou pour les Alpes de Haute-Provence, sur 40 personnes en détention, il y a combien en milieu ouvert?
Alors l'effectif théorique pour la maison d'arrêt est à peu près équivalent à celui de Gap, 38 places. Et pour le milieu ouvert, actuellement, nous suivons 550 personnes. Donc effectivement, il y a l'essentiel de nos mesures sont constituées par des mesures de milieu ouvert.
Alors, on va revenir sur ce qu'on appelle le milieu ouvert.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une, en réalité, il y a une gradation entre l'ensemble de ces mesures. Il y a une circulation entre le milieu ouvert et le milieu fermé. C'est-à-dire que l'application des peines est une construction qui a été faite de façon pragmatique. Il n'y a pas eu de grande loi sur l'application, sur l'aménagement des peines. Et la plupart de ces mécanismes se sont mis en place progressivement. Mais il en résulte, si vous voulez, une échelle assez progressive avec des moyens de contrainte de plus en plus forts ou de moins en moins importants. C'est-à-dire que vous pouvez être incarcéré pour une peine et demander à être admis au régime de la semi-liberté, puis à être admis au placement sous surveillance électronique, puis sous la libération conditionnelle. Donc ainsi, votre liberté va en augmentant et les contraintes en diminuant. Et à l'inverse, vous pouvez très bien être sous une mesure de probation, un sursis avec mise à l'épreuve, et puis voir cette mesure révoquée et être placé en détention. Et donc, il y a une communication entre les deux. L'ensemble de ces mesures ont les mêmes objectifs, c'est de permettre la réinsertion des personnes qui sont sous main de justice et de prévenir la récidive. Donc ça, ce sont les deux objectifs qui sont poursuivis. Et l'objectif, le but, c'est effectivement d'aller vers une plus grande liberté, vers un dégagement le plus important possible afin de permettre aux gens de retourner vers une vie insérée, avec toujours une contrainte qui permet, en cas d'échec, de retourner à la détention. Donc il y a une communication entre le milieu ouvert et le milieu fermé, ce qui explique que les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont en charge et interviennent dans les deux hypothèses. Voilà ce qui est important, ce qui permet un suivi meilleur et ce qui permet effectivement de remplir ces deux objectifs.
Alors comment on décide? On a vu donc pour l'aménagement des peines, c'était en fonction de la volonté du détenu aussi et d'une enquête que vous faisiez vous pour avoir ce choix-là.
Effectivement, que la personne soit incarcérée ou en milieu ouvert, dès lors que nous sommes saisis d'une mesure, nous procédons à des évaluations de la personne pour voir si la situation permet le bénéfice d'un aménagement de peine. Donc cette évaluation, on va la faire tout au long de la mesure et voir si la personne présente les garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d'un aménagement de peine. Et notre évaluation fait systématiquement l'objet d'un rapport au magistrat qui nous a saisis, de manière à ce que lui puisse prendre sa décision de manière éclairée.
Alors quels sont les cas où un aménagement de peine pourrait être refusé ?
Alors, il y a des critères légaux, il y a des conditions de recevabilité, c'est-à-dire qu'il faut avoir une peine, par exemple, qui soit inférieure à 2 ans ou 1 an si vous êtes en récidive. Et après, pour chaque type d'aménagement de peine, vous avez un certain nombre de conditions. En général, il s'agit d'avoir du travail, par exemple. Si vous voulez un placement sous surveillance électronique, il faut évidemment avoir un logement où on puisse placer le dispositif. Et il faut faire des efforts d'insertion et montrer que l'on est motivé, qu'on a envie de se réinsérer. Et ça peut être également être soumis à des soins. Enfin, la personne qui en fait la demande donc, doit venir devant le juge avec un dossier. Et ce dossier est instruit par le service pénitentiaire d'insertion et de probation hein, qui va permettre à la personne d'amener l'ensemble des justificatifs et qui va faire un rapport qui va être évidemment très écouté et lu par le magistrat qui prendra la décision.
C'est le magistrat qui prend la décision.
Le magistrat, c'est le juge d'application des peines.
Pardon.
Donc, en l'occurrence, en l'espèce, c'est moi. Parce qu'on peut se poser la question de ce fonctionnement, mais c'est parce qu'on est dans un état de droit et les peines privatives de liberté doivent être décidées par un juge du siège, c'est-à-dire un magistrat indépendant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de rapport non plus hiérarchique entre le juge d'application des peines et les services. Comme vous expliquiez tout à l'heure, les services agissent sur mandat, c'est-à-dire sur une ordonnance qui est délivrée par le juge d'application des peines. Mais le juge d'application des peines n'est pas le directeur en chef du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Voilà. Question de séparation des pouvoirs.
Donc, pour revenir aux outils du milieu ouvert.
Alors la mesure la plus importante, qui est d'ailleurs discutée pour être refondue et réformée, est le sursis avec mise à l'épreuve, qui est une peine de sursis, c'est-à-dire une peine de prison qui est prononcée, mais que la personne n'exécutera pas si elle se soumet à un certain nombre d'obligations. Alors les obligations sont d'abord de répondre aux convocations du service pénitentiaire d'insertion de probation, le cas échéant du juge d'application des peines, mais également il y a un panel d'obligations qui peut être prononcées, l'obligation de travailler, l'obligation de se soigner, l'obligation de d'indemniser les parties civiles, l'interdiction de rentrer en contact, etc., qui sont donc individualisées pour chaque personne, afin de lui permettre de se réinsérer et d'éviter de commettre de nouvelles infractions. Donc la personne est convoquée régulièrement, tous les mois ou tous les deux mois, par le service qui va contrôler que ses obligations sont correctement remplies. Et donc c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui va exécuter ce contrôle, ce suivi et faire les rapports au juge.
Cécile Castelli ?
Oui, pour compléter et pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Fabienne Usiglio sur l'évaluation qui est faite par le SPIP des personnes qui sont reçues. Et donc cette évaluation, elle est systématique dès lors que nous sommes saisis d'une mesure. Il y a plusieurs choses à entendre, c'est qu'on travaille à l'échelle de la personne, mais sur la globalité de ses problématiques. Donc ce n'est pas seulement la question des obligations judiciaires, mais c'est aussi tout l'environnement social, familial, le niveau de formation. On reprend tout avec la personne pour l'accompagner de la manière la plus complète qui soit, puisque nous avons donc le volet insertion, qui est le principal volet de notre travail. Comme le rappelait le juge d'application des peines, effectivement, l'idée c'est de réinsérer durablement les personnes et d'éviter la récidive. Donc pour ce faire, suite à l'évaluation, il y a tout un travail qui est fait avec la personne sur la durée, puisque les mesures sont relativement longues pour permettre aussi ce suivi. Et on est effectivement sur une logique de parcours. Donc on prend la personne au point A au démarrage de la mesure, et l'idée c'est de l'accompagner dans un parcours d'insertion qui peut s'avérer long, qui peut continuer après la fin de la mesure de justice. Donc ça peut, le temps de la personne et de la vie n'est pas forcément celui de la justice, mais en tout cas, nous, notre rôle, c'est d'accompagner la personne sur cette durée et sur cette dynamique, c'est de provoquer du changement et que ce passage par la justice soit certes un moment, mais qu'on ne retrouve plus la personne à l'avenir dans son parcours. Autre chose que je voudrais ajouter, c'est que ce travail, on ne le fait pas tout seul. Et ce qui est très important pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est de s'entourer d'un certain nombre de partenaires. Donc je pense à la fois aux partenaires du soin, de la formation, de l'insertion,
de l'emploi,
du caritatif. On travaille vraiment en équipe pour étayer l'évaluation, mais aussi accompagner, encore une fois, globalement, la personne en fonction de ses problématiques. Donc si la personne elle est sous tutelle ou sous curatelle, on va travailler aussi avec la mesure de protection, etc. Donc on est vraiment au cœur, nous, de l'animation d'un partenariat pour entourer la personne et répondre le mieux possible aux problématiques qui ont parfois conduit aussi à la commission de l'acte, mais en tout cas à une certaine fragilité qu'il s'agit de travailler et sur laquelle il faut revenir pour que, à la fin de la mesure de justice, un certain nombre de freins à l'insertion soient levés et que la personne puisse donc retrouver une citoyenneté active dans un contexte personnel davantage stabilisé.
Donc, vous êtes une vraie grande famille à intervenir donc en collaboration.
Alors attention quand même au terme de famille, parce qu'on ne devient pas les amis non plus, personnes passées sous main de justice, donc il y a une distance effectivement à garder. Mais en tout cas, oui, c'est un travail d'équipe où chacun a son rôle, que ce soit du côté de la juridiction, de la maison d'arrêt quand on est sur le milieu fermé, mais aussi des partenaires avec lesquels on travaille vraiment au quotidien, effectivement.
Alors, quand on a, par exemple, 400 personnes en milieu ouvert, comment ça se passe pour gérer ces 400 personnes ?
Article 22, comme on peut.
Ah, c'est joli.
Non, je plaisante. Ça se passe de manière assez intense parce que, en face, il y a les moyens du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou l'absence de moyens. Donc en termes de personnel et en termes financiers, parce que notre rôle dans le partenariat, c'est aussi de faire découvrir un certain nombre de choses aux personnes passées sous main de justice en développant des activités. On avait eu l'occasion de l'évoquer à l'émission du 29 mars à la maison d'arrêt. Le GAP, on travaille aussi le partenariat avec le développement d'un certain nombre d'activités culturelles, sportives, citoyennes, de santé, etc. Donc, organiser la prise en charge des personnes, ça veut dire aussi un certain nombre de moyens. Et en l'occurrence, que ce soit le SPIP du 04 ou le SPIP du 05, nous ne sommes pas au niveau d'effectif auquel nous devrions être. Donc, ça veut dire effectivement beaucoup de prise en charge par personne et donc un rythme de travail à tenir et une organisation. Et donc, on ne peut que saluer l'investissement de nos conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont sur le pont quotidiennement Je laisse la parole peut-être à Fabienne si tu veux compléter sur le quotidien.
Tu as bien résumé par rapport effectivement à la charge de travail par conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Oui, ça demande une implication quotidienne et intensive.
Combien de conseillers d'insertion et de probation par maison d'arrêt, je dirais?
Alors là, actuellement, pour le SPIP 04, c'est 6 conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation pour 550 personnes suivies en milieu ouvert, plus la maison d'arrêt, 40 personnes. Donc ça fait une moyenne, tout le monde n'est pas à temps complet, ça fait une moyenne pour quelqu'un à temps complet de 110 personnes actuellement. Alors pour nous aider dans nos pratiques quotidiennes, nous avons également une psychologue recrutée par le SPIP qui intervient un jour par semaine sur le 04, un jour par semaine sur le 05, et qui nous aide à cerner parfois le profil psychologique des personnes. Donc c'était important aussi de signaler qu'en plus des conseillers, nous avons une psychologue SPIP.
Oui, et autre chose, je précise aussi que suivre les mesures et les personnes, c'est aussi parfois gérer des choses au quotidien auxquelles on ne penserait pas forcément avant d'arriver à ce poste. Et c'est aussi gérer les familles qu'il y a autour. C'est vraiment, on est au cœur de la vie de la personne. On est parfois sollicité pour résoudre des choses pratico-pratiques du quotidien, où parfois la personne n'a que nous. Si on est face à une personne qui est isolée, qui a connu la rue, qui est dans une situation de grande précarité, on peut aussi se retrouver sur des questions de la survie du quotidien et on est aussi interpellé. Et d'où l'intérêt aussi de travailler avec des structures caritatives qui parfois nous apportent du soutien avec des colis alimentaires et des choses comme ça, parce qu'on est aussi face à une grande précarité. Et ça implique aussi un travail un peu particulier quand on est face à cette précarité-là. Voilà. Comme on individualise vraiment notre prise en charge, on peut être amené parfois à gérer des choses qui vont au-delà de la mesure de justice et des obligations judiciaires.
Quand vous parliez pour l'aménagement de peine, il manquait de structure d'accueil. Quel genre de structure?
Effectivement, ce que nous avions abordé la dernière fois, c'était les places pour les peines de travail d'intérêt général, où on avait des difficultés sur certains secteurs à placer les personnes lorsqu'elles avaient une mesure de sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ou un travail d'intérêt général à faire. Parfois, on était en difficulté pour placer, pour faire exécuter la peine.
Pour la question du logement, sur le 04 et le 05, on n'a pas des problématiques aussi fortes qu'on pourrait avoir ailleurs. On n'est pas non plus sur des départements qui sont particulièrement en tension du point de vue de l'accès au logement social, etc. Alors on travaille avec aussi les CHRS, les bailleurs sociaux, etc. C'est pas tellement une problématique. Enfin, en tout cas, c'est pas un frein majeur. Le frein majeur, il est pas là. Effectivement, sur la question du travail d'intérêt général, c'est de trouver les structures qui veulent bien accueillir un tigiste et qui comprennent bien en quoi consiste le tige. Justement, peut-être qu'on peut aussi détailler les types de mesures.
Oui.
Oui, sur le travail d'intérêt général est une mesure qui nous est venue à l'origine des États-Unis. Qui consiste à effectuer en fait un travail pour une collectivité ou une association, mais à titre gratuit. Et donc, à l'heure actuelle, ce travail doit être effectué nécessairement pour une collectivité locale, pour un établissement public ou pour une personne privée, mais chargée d'une mission de service public. Donc la difficulté, notamment dans notre département, c'est effectivement d'avoir suffisamment de postes adaptés. Dans l'ensemble du département. Donc il y a toujours un travail de recherche de ces postes parce que toutes les collectivités, tous les établissements publics ne sont pas forcément favorables ou informés, alors que ça fait partie de leur mission, que ça fait partie de leur devoir de faire en sorte de permettre l'insertion ou la réinsertion du condamné. C'est des mesures qui sont assez efficaces, notamment sur les petites peines ou sur un public assez jeune, parce que ça permet de donner une première expérience et une première approche du travail avec un encadrement, c'est-à-dire que vous êtes quand même encadré, surveillé, aidé par le service pénitentiaire d'insertion et probation, ainsi que par la collectivité qui doit mettre sur place un tuteur pour vous encadrer. Donc ça peut être une première marche utile ou une opportunité de se remettre dans le monde du travail. Donc c'est une peine qui, dans un certain nombre de cas, est tout à fait adaptée et est très efficace. Donc effectivement, la difficulté à l'heure actuelle, c'est d'avoir suffisamment de postes, d'avoir suffisamment de collectivités qui travaillent avec le service pénitentiaire d'insertion de probation et avec l'application des peines.
Et est-ce qu'il y a une durée de temps de travail?
Oui, la durée est limitée. Hein. Elle ne peut pas dépasser un certain nombre d'heures. Donc là, le nouveau projet de loi voudrait faire passer des quelques 220 ou 280 heures actuelles à 500. Donc ça pose vraiment des questions sur la philosophie de la mesure, parce que une cinquantaine d'heures ou une centaine d'heures ou 200 heures, c'est une chose, mais au bout d'un moment, il faut que la mesure, il faut passer à autre chose, c'est-à-dire qu'il va falloir passer sur un véritable contrat, sur une véritable activité professionnelle. L'hypothèse de passer à des mesures plus longues méritera, eh bien, je crois, une étude et une nouvelle conception de la mesure.
Est-ce que ça arrive souvent ou quelquefois que des personnes donc en travail d'intérêt général soient débouchent sur une embauche après de la structure?
Oui, nous avons eu le cas à la commune d'Embrun, il n'y a pas très longtemps, effectivement, où la personne a donné totalement satisfaction dans l'exécution de son travail d'intérêt général, et à l'issue de quoi la commune a effectivement proposé un contrat à durée déterminée, certes, mais néanmoins un emploi classique qui a permis effectivement la réinsertion durable de la personne concernée.
Il y a des aides de l'État, justement, pour les structures qui voudraient embaucher...
Après le TIGE?
Oui.
Pour passer du TIGE au contrat, pas plus que pour les autres personnes, classiquement, les autres citoyens qui ne seraient pas condamnés. Il n'y a pas d'aide particulière. Après, le rôle aussi pour nous dans la réinsertion, c'est aussi d'amener les personnes vers davantage d'autonomie. Donc certes, elles sont sous main de justice, mais elles sont pas en dehors de la société et elles ne répondent pas à des règles qui seraient différentes pour elles. Hein. Donc elles postulent à Pôle emploi, Mission Jeune, elles vont aussi dans les boîtes d'intérim comme tout un chacun. C'est aussi, quand je parlais de citoyenneté active, c'est ça aussi, hein, c'est d'être dans un rapport d'autonomie et ça reste... Le condamné, c'est votre voisin. Voilà, il faut aussi démystifier qui est la personne condamnée. C'est nos voisins. C'est nos voisins et nos cousins.
Donc le travail d'intérêt général, c'est une mesure possible. Est-ce qu'il y a d'autres mesures en milieu ouvert?
Alors en milieu ouvert, on a pratiquement vu les deux principales. Il y en a une troisième qui est la libération conditionnelle, qui est la mesure qui concerne les personnes qui étaient en détention et qui vont sortir de manière anticipée, soumises à peu près au même type d'obligation que celle qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve. Cette mesure-là, est une mesure tout à fait similaire dans son suivi au sursis avec mise à l'épreuve. Elle est en général accompagnée, comme je le disais, des mêmes contraintes. Voilà. Donc, vous avez une dernière mesure, mais qui n'est pas vraiment une mesure de milieu ouvert, qui sont les conversions au jour amende, dont il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que ça permet, pour un certain nombre de petites peines, de permettre de régler financièrement l'exécution de la peine.
À la place donc des journées d'emprisonnement.
Voilà, mais c'est des mesures qui ne sont pas suivies par le service pénitentiaire d'insertion de probation, qui sont des mesures d'aménagement de peine, qui permettent sur des petites peines, pour un certain nombre de types de condamnations, bien de convertir en jour amende, c'est-à-dire en peine financière. Voilà.
Donc ce qu'on appelle la libération conditionnelle, c'est ce qu'on pourrait appeler la libération pour bonne conduite, c'est ça?
C'est ça aussi, tout à fait.
Et ouais. Qui, généralement, peut réduire de moitié la peine?
Alors vous pouvez la demander à partir du moment où vous avez exécuté la moitié de votre peine, pour simplifier les choses. Donc ce qui vous permet effectivement de réduire l'exécution de votre peine. Mmh.
Ce qui fait bondir souvent... La partie civile qui a été victime.
Pas forcément. Non. Pas forcément, parce que la libération conditionnelle peut être assortie d'un certain nombre d'obligations, notamment l'obligation de travailler, d'indemniser les victimes. Donc la victime peut avoir un intérêt à ce que l'auteur soit dehors et puisse travailler et l'indemniser. Alors c'est toujours pareil, ce qu'il faut savoir c'est que les peines criminelles, c'est-à-dire pour les infractions les plus graves, sont les moins nombreuses. La plupart des condamnés que l'on suit, ce sont pour des peines, pour des infractions beaucoup moins graves. Il va s'agir de vol, il va s'agir de violence. En ce qui concerne les peines les plus graves, vous avez aussi des périodes de sûreté qui font que vous ne pouvez pas aménager avant un certain temps de détention. Donc si les juges estiment, ou les jurés, en tout cas la juridiction, estiment que la personne ne doit pas sortir, notamment parce qu'il y a des victimes, eh bien le juge le prononce dès l'origine. Donc les juges savent ce qu'ils font quand ils prononcent des décisions, ils savent s'ils veulent que la personne puisse sortir le cas échéant à mi-peine ou pas. Et si vous ne le souhaitez pas, eh bien vous pouvez prendre des mesures appropriées. Donc il n'y a pas de surprise. Il y a un peu une légende qui dirait que le tribunal prononce une peine et qu'ensuite, dans son dos, les choses sont détricotées. Donc ce qui est totalement faux. Quand un juge délibère sur une peine, quand un juge choisit une peine, il a lu le code de procédure pénale, il a lu le code pénal et il sait exactement comment la peine peut se dérouler. Donc il le prend en compte dans son prononcé de peine. D'autant que les juges d'application des peines siègent souvent dans les formations collégiales ou même à juge unique qui prononcent ces peines et ces sanctions. Donc il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. C'est un peu une légende ou une phobie qui est répandue. Mais les juridictions savent parfaitement ce qu'elles font et elles le prennent en considération dès l'origine.
Merci.
Et je me permets d'ajouter que ce que vous soulevez, c'est la question aussi du sens de la peine. Et ça fait aussi partie de notre travail, c'est de travailler avec la personne condamnée sur les faits qui ont été commis, sont reconnus, sont pas reconnus, on en est où par rapport à ça, comment le prononcé de la peine est vécu, est-ce que la personne considère qu'effectivement, elle reconnaît les faits, elle les assume, elle est prête déjà dès le départ, au début de la mesure à s'inscrire dans la démarche de la mesure et de la réinsertion, où est-ce qu'on a ce travail à faire. Et effectivement, souvent, c'est aussi ce qu'on a à travailler sur le sens de la mesure. Et les mesures doivent aussi, sont aussi réfléchies sur, en fonction des faits commis, de la peine qui est prononcée, etc. On travaille vraiment, ce que je disais tout à l'heure, l'individualisation, c'est vraiment important, parce qu'on se pose vraiment à chaque fois, à l'échelle de la personne, la question de, voilà, en fonction des faits commis et de là où en est la personne, quelle est la peine la plus appropriée, la conversion la plus appropriée, ou l'aménagement de peine le plus approprié pour que ça fasse sens et qu'on soit dans un parcours d'insertion utile.
On peut dire un mot sur les victimes, puisque vous avez évoqué la question, parce que ça, je crois que c'est assez intéressant. Toutes ces mesures de probation permettent la protection des intérêts des victimes. Donc il y a effectivement leur indemnisation, comme on y a fait allusion. Mais il y a aussi la possibilité de prononcer des interdictions, d'entrer en contact avec les victimes, de se rendre à leur domicile, ou même des exclusions de territoire. Donc ce sont des mesures que le service pénitentiaire d'insertion et de probation va contrôler. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation va également contrôler les interdictions de séjour, qui peuvent être des peines complémentaires, hein, qui sont prononcées. Donc ça permet efficacement de protéger les victimes, c'est-à-dire que si la personne qui a été condamnée rentre en contact avec sa victime, ne serait-ce par des coups de téléphone, des messages textos ou autres, eh bien, il peut être immédiatement incarcéré dans les heures qui suivent, et puis d'être interrogé sur la raison pour laquelle il a fait ça, et le cas échéant, eh bien, envoyé en détention pour purger l'ensemble de sa peine sous la détention ordinaire. Donc, si vous voulez, ce sont des moyens efficaces de concilier à la fois les intérêts des victimes et puis la possibilité de réinsertion des personnes condamnées. C'est quelque chose qui, en général, est respecté et que les personnes condamnées comprennent bien. Donc les victimes sont tout à fait prises en compte dans les décisions qui sont rendues et le travail du service pénitentiaire d'insertion de probation est important à leur égard, notamment.
Quelles sont les compétences que vous demande votre travail d'insertion pénitentiaire, de probation ?
L'écoute tout d'abord, parce qu'on doit être, nous devons être énormément à l'écoute des publics que nous prenons en charge. L'empathie également.
Est-ce que ça vous demande d'avoir des connaissances en droit ?
Des connaissances en droit également, puisque nous allons être amenés à proposer des aménagements de peine, donc nous devons de connaître les conditions légales.
Oui, enfin, les conseillers directeurs du service pénitentiaire d'instance de probation connaissent très très bien le droit de l'application des peines, hein. Ça fait aucun doute, ils connaissent toutes les conditions, toutes les subtilités, et ça fait partie de leur travail de pouvoir proposer, de combiner les aménagements de peine, parce que comme je le disais, c'est une construction pragmatique et parfois toutes les règles ne sont pas parfaitement cohérentes, et donc il faut savoir jongler et trouver des solutions. Donc très souvent ce sont eux qui vont proposer des solutions qui évidemment vont être ensuite adoptées par la juridiction, par le juge, mais les conseillers connaissent très bien les règles de droit. Le système permet, si vous voulez, plusieurs avantages. C'est-à-dire que effectivement, il y a une nécessité pour bien comprendre, pour bien entendre la personne condamnée, d'avoir un service qui est suffisamment proche. Hein. Et de l'autre côté, vous avez le parquet, par exemple, qui lui va représenter la loi, les intérêts de la société, qui va avoir une autre vision des choses. Et le juge, qui est indépendant de l'un et de l'autre, va pouvoir, une fois qu'il aura entendu les rapports, les avis de chacun, eh bien, prendre sa décision. Donc le juge d'application des peines doit rester à distance, mais doit également avoir les informations qui lui viennent de part et d'autre, ce qui explique aussi cette architecture entre service pénitentiaire d'instruction de probation la juridiction elle-même. Voilà. Et une des qualités, évidemment, des conseillers, c'est leur sens de l'humain, hein, ce qui est un point commun, je crois, assez fondamental de toutes les personnes qui travaillent pour la justice. Nous sommes sur d'abord de l'humain, c'est-à-dire la protection des personnes, de leur liberté individuelle.
Est-ce qu'il y a beaucoup de récidives pour les personnes qui sont en milieu ouvert ?
Eh bien, pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu toujours les mêmes, j'ai envie de dire, qui vont récidiver, mais sur beaucoup, beaucoup de mesures. Ce sont des gens dont vous n'entendez pas beaucoup parler pendant le déroulement de la mesure et dont vous n'entendez plus jamais parler par la suite. Donc, il y a beaucoup de gens qui sortent du cycle, mais ceux qui restent, effectivement, ils peuvent rester un peu plus longtemps, et souvent vous avez ce qu'on appelle des courbes de désistance, c'est-à-dire que il va falloir un certain nombre de condamnations et un certain nombre de récidives avant que la personne arrête ses comportements délictueux. Puis vous avez des gens qui ont un comportement crapuleux et véritablement dans la délinquance et qui entendent le poursuivre. Mais dans un certain nombre de cas, vous avez des gens qui sortent quand même des cycles.
Parce que ce que nous disait Olivier Villès, c'est que 30% des personnes détenues sont souvent pour des délits d'infractions routières, quoi.
Oui.
Des infractions routières, que ce soit sous emprise d'alcool, de stupéfiants ou simplement excès de vitesse.
Alors vous avez raison d'aborder la question sous cet angle, parce qu'effectivement ça n'a pas la même signification. C'est-à-dire être en récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, c'est une chose. Être en récidive de violence, être en récidive de violence conjugale, c'est autre chose. Donc il faut savoir de quel type de récidive on parle. Évidemment, toutes les délits routiers, les délits liés à l'alcool, il y a une récidive, mais qui provient d'une problématique de santé, d'addiction, hein. Donc ça, évidemment. Donc il peut être plus difficile là de sortir du cycle de la délinquance, mais il y a quand même des résultats qui sont bons, hein, qui montrent que l'arsenal de mesures permet d'obtenir des résultats.
Alors les délits de violence conjugale, c'est quand même assez courant, malheureusement. Est-ce que là aussi il y a des moyens de remettre des personnes qui sont auteur de violence, souvent c'est dû à la précarité, c'est dû à...
Ah non, pas forcément. Non. Là, sur la violence conjugale, je crois que ça touche tous les milieux.
Ah oui.
Et c'est vraiment un fléau, il faut le dire, pour les conjoints qui sont souvent des femmes. C'est vraiment culturel et ça ne dépend pas du milieu. Hein. Alors évidemment, l'alcoolisme, les stupéfiants n'arrangent pas les choses, mais ce sont des infractions que l'on trouve dans de nombreux milieux. Alors effectivement, là, il y a c'est un sujet délicat. Ce que peut faire la justice, en tout cas, c'est essayer de protéger les victimes. Je crois que les directeurs des services spécialisés de promotion vous en parleront mieux que moi, mais ils sont spécialement organisés avec des psychologues notamment pour pouvoir traiter ce genre de difficultés parce qu'il faut un suivi psychologique, il faut une approche pluridisciplinaire, étant entendu que souvent la seule solution ou une des seules solutions, c'est d'essayer de protéger la victime. Voilà. Donc très souvent, un des premiers échelons pour la juridiction, c'est de condamner les personnes à un sursis avec mise à l'épreuve, avec une interdiction d'entrer en contact avec la victime, quand c'est possible, parce que...
On a l'impression que c'est un peu léger de simplement d'interdire, quoi, pour la personne qui est vraiment violente.
La difficulté, non, parce que ça peut conduire à son incarcération immédiate si elle ne respecte pas. Mm-hmm. La difficulté de ces violences conjugales dans un certain nombre de cas, alors vous avez plusieurs dispositifs, hein, vous avez aussi des ordonnances de placement provisoire qui dépendent du parquet, qui peuvent être mises en place. Voilà, donc selon la dangerosité, mais si vous êtes sur une dangerosité qui n'est pas immédiate, vous pouvez essayer, tenter de mettre une mesure de probation avec une interdiction d'entrer en contact. La difficulté, c'est que très souvent, il y a la personnalité de la victime qui ne va pas s'opposer à revoir l'auteur des infractions, qui va... parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a encore des sentiments, parce qu'il y a une faiblesse psychologique, qui va accepter de le revoir une fois, deux fois. Donc la difficulté peut être ici aussi, et effectivement, il faut beaucoup de psychologie, il faut une bonne compréhension des situations pour pouvoir intervenir, mais c'est ce que fait le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
J'avais envie de vous exprimer là-dessus.
La difficulté dans la prise en charge de ce type de mesure, pour nous, c'est souvent d'amener l'auteur à reconnaître la gravité des actes commis, parce que justement, en lien avec les propos de la victime ou l'attitude de la victime qui va parfois revenir vers l'auteur, l'auteur va être amené à minimiser ses faits. Donc nous, au niveau des services pénitentiaires d'insertion et de probation, on travaille beaucoup sur les faits avec ce type d'infraction, en fait.
Oui, ça, je crois que c'est très important de le dire, parce qu'effectivement, la juridiction et le tribunal ne peut pas faire ce travail. C'est-à-dire qu'à l'audience, effectivement, c'est une minimisation. C'est-à-dire que, mais elle a glissé quand je ne voulais pas la bousculer, elle est tombée, elle marque vite. Enfin, tous les arguments qui sont tout le temps ceux de ce type d'auteur. Et il y a une nécessité, effectivement, de les faire parler, d'obtenir qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait, et ça ne peut être fait qu'après. Est-ce qu'un emprisonnement est forcément nécessaire pour ça ? Pas sûr. Si ça peut être fait en milieu ouvert, si ça permet de rencontrer un psychologue, d'entamer une démarche, c'est le but qui est recherché. Si on n'y arrive pas, si ça recommence, il n'y a pas d'autre solution, évidemment, que l'incarcération dans ces cas-là. Mais effectivement, c'est un domaine très, très délicat, parce que c'est pas simplement la peine qui peut avoir un effet. Il faut un accompagnement psychologique qui est compliqué, puisqu'on est dans une relation. C'est pas des choses qui sont tout à fait rationnelles, en quelque sorte.
Et c'est vrai que l'accompagnement psychologique, donc nous... On va se baser sur l'obligation de soins, mais tout le long de la mesure, nous allons rechercher une adhésion, en fait. Parce que il faut vraiment amener la personne à adhérer à la mesure qui a été prononcée. C'est un appui pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais tout au long de la mesure, on recherche cette adhésion. C'est indispensable pour travailler à la prévention de la récidive, en fait. Il faut que la personne s'approprie s'approprie la décision de justice.
Et puis tout ça dépend toujours si la victime porte plainte, c'est ça ?
Non,
pas du tout. Justement, vous n'avez pas besoin de porter plainte. Hein. L'infraction est constituée. Si le parquet décide de poursuivre, il décidera de poursuivre, eh bien, vous serez condamné. C'est très fréquent. C'est même un signe, j'ai envie d'ajouter, la victime retire sa plainte. Hein. Les violences conjugales, c'est souvent ça. C'est parce que quand vous partez au premier signe de violence, ça ne va pas plus loin. Ce sont des personnalités particulières, souvent une faiblesse sociale, psychologique, qui fait que la personne reste et qu'elle va subir ces violences, les accepter jour après jour et même les considérer comme étant normales et revenir vers son bourreau. Donc il y a un couple qui se crée, victime-bourreau, et c'est là-dedans qu'il faut intervenir et c'est là où c'est compliqué et où la seule décision de justice ne donnera pas de résultat. La personne placée en détention, le jour où elle va sortir, elle va recommencer. Avec ces mesures en milieu ouvert, on peut tenter d'essayer d'obtenir une solution qui est également favorable évidemment à la victime. Alors ça donne un exemple de ce qu'est le milieu ouvert et de la variété de ces missions. Donc vous voyez, ça peut être le soin psychologique, le soin contre les addictions, on n'en a pas beaucoup parlé, mais énormément d'infractions sont commises sur fond de consommation soit d'alcool, soit de produits stupéfiants, et ces mesures de milieu ouvert vont permettre un soin psychologique pour essayer en allant voir des addictologues d'arrêter la consommation d'alcool, d'arrêter la consommation de stupéfiants, ce qui constitue des efforts considérables pour les personnes qui sont sujettes à ces addictions, qui souvent par ailleurs ont des problèmes d'ordre sociaux, d'ordre familiaux, donc peu de ressources pour se rattraper et lutter. Et donc la mesure de milieu ouvert va permettre de lutter contre ça. En même temps, comme on l'expliquait, éventuellement de retrouver du travail, de permettre le cas échéant de passer des diplômes ou d'avoir des formations. Donc ces mesures de milieu ouvert ont l'avantage d'être extrêmement adaptables, ou enfin en tout cas adaptables, et de permettre aux services d'intervenir avec la limite qui vous a été indiqué tout à l'heure, que cela évidemment dépend des moyens. Donc 80 mesures pour un conseiller, 100 mesures, 120 mesures. Au bout d'un moment, vous voyez bien que le travail ne peut pas être fait de façon satisfaisante. De la même façon avec les partenaires, il faut des partenaires pour proposer des traitements, pour proposer des formations, pour proposer un accompagnement divers, de proposer des logements. Donc tout ça est extrêmement important et c'est pas une question qui concerne et qui intéresse exclusivement la justice, mais l'ensemble de la société, il me semble.
Et je voudrais compléter sur la question aussi des moyens et du partenariat, revenir sur la spécificité des territoires alpins, puisque la particularité des deux SPIP 04 et 05, c'est qu'ils sont à l'échelle de chacun des deux départements. Et que l'intervention du service ne se fait pas seulement au siège à Gap et à Digne, mais sur l'ensemble du département, dans le cadre de permanence délocalisée, puisque nous avons aussi affaire à des personnes qui ont des difficultés de mobilité, que nous sommes un service public et que le service public se doit d'être en proximité des usagers. Et cela implique aussi, sur la question des moyens, c'est aussi la question des déplacements quotidiens pour aller dans les permanences délocalisées, généralement dans les maisons de justice et du droit, les points d'accès au droit, les maisons de solidarité, enfin il y a différentes formules, les maisons de service public, différentes formules en fonction des territoires. Et ça, pour nous, c'est aussi un enjeu très important. Ça impacte l'organisation du service. Ça impacte la relation aussi avec la personne, puisqu'on va aussi au-devant, dans les territoires. Et ça veut dire aussi connaître les partenaires locaux. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas uniquement avec les têtes de pont des deux principales villes de Digne et Gap, mais on travaille bien avec l'ensemble du réseau sur l'ensemble du département.
Oui, pour aller un peu plus loin et pour préciser un point, la justice, c'est pas un service public, c'est une fonction de l'État. Hein. Donc, ça va au-delà. Non, mais je vais dans votre sens, mais pour aller plus loin, c'est-à-dire que ça va plus loin. Le contrôle, les missions qui sont celles du service pénitentiaire d'insertion de probation sont une continuation. Ce sont des missions de la justice, ce sont des missions judiciaires et qui sont exercées à tout instant et qui ne s'interrompent pas et qui sont vitales pour le fonctionnement, le bon fonctionnement fonctionnement de la justice et de la démocratie. Donc ce sont des choses, ce sont des missions qui sont tout à fait éminentes et extrêmement importantes pour le lien social et pour la continuité de l'État.
Moi, j'ai envie de revenir sur, parce qu'on parle, ce soit des détenus à la maison d'arrêt de Digne ou de Gap, ce sont des hommes. Est-ce que dans les aménagements de peine, il y a des femmes
Oui, bien sûr. Alors, les maisons d'arrêt de Gap et de Digne ne sont pas mixtes, c'est-à-dire que les femmes vont exécuter leur peine ailleurs. Mais en ce qui concerne le milieu ouvert, vous avez aussi bien des hommes et des femmes qui sont suivis. Il y a beaucoup moins de femmes parce qu'il y a moins de femmes qui commettent des infractions, il y a moins de femmes en tout cas qui sont condamnées pour des infractions. Donc voilà, mais vous avez effectivement des femmes également qui sont suivies pour tout type d'infractions.
Y compris violences conjugales.
Oui, qui sont elles les bourreaux.
Tout
c'est
à fait.
Ça, voilà.
Oui. Ça peut. C'est plus rare, mais ça existe, il ne faut pas l'oublier non plus.
Oui, c'est sûr.
Oui, ou il y a aussi, dans le contentieux de la famille, sur la non-présentation d'enfants, vous avez... mais sinon, vous avez du vol, vous avez du trafic de stupéfiants. Ce sont des choses qu'on voit aussi couramment. Mais c'est vrai qu'il y a moins de femmes qui sont condamnées.
Et oui, justement, avec les séparations, les droits de garde et tout ça, il y a beaucoup de problèmes.
Je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup, et c'est, je crois, une bonne chose. Et ça serait bien qu'il n'y en ait plus du tout, parce que ça n'est pas à la justice pénale, ça n'est pas à l'application des peines, de régler ce type de problème. Et pour le coup, on n'a pas véritablement les instruments les plus adaptés. Et en venir à la justice pénale pour des problèmes de pension alimentaire qui ne sont pas réglés ou de non-présentation d'enfants, je ne suis pas certain que ce soit les choses les plus adaptées. Donc dans un certain nombre de cas très très réduits, ça peut se justifier, mais de façon générale, il serait mieux qu'on trouve des voies de règlement autres. Je ne sais pas ce qu'en pense le respectant ça, c'est une probation.
Tout pareil.
Alors, on n'a pas beaucoup de dossiers, ça arrive rarement. Ça arrive vraiment quand la juridiction voit qu'il n'y a plus d'autre solution, qu'il va falloir faire une contrainte. Mais c'est très embêtant de faire incarcérer une personne qui ne va pas vouloir payer la pension alimentaire ou qui ne va pas vouloir présenter les enfants. Hein. Donc voilà. Donc c'est très, très résiduel. Ça n'est absolument pas représentatif des dossiers qu'on a habituellement. Ça peut arriver qu'on en ait un ou deux de temps en temps, mais ça n'est absolument pas l'essentiel de notre travail.
On fait une pause musicale.
Avec plaisir.
Allez, c'est parti.
Prince héritier, complice du KGB. Bourville, Richard Burton, le gros général Patton sont dans les films de guerre. Avion US, plein de napalm. Hélicoptère noir, si semble le ciel du Vietnam. Des chars qui roulent sur des gens, chinoiserie sur grand écran. THX, t'es à chier. Colons anglais et portugais, film italien sur des bandits mexicains. De beaux officiers allemands, tirailleurs sénégalais. Entente cordiale et internationale. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. On dirait de la bande dessinée. On voit les prisonniers des bras arrachés. Quand même coucou derrière les barbelés. Pas rancunier les gars, merci, je m'en rappellerai.
Pour nous faire croire que
l'emmerdement qui pète pile au bon moment. Leurs uniformes cintrés, les femmes lieutenants ne sont là que pour la scène du nu. Tu sais, l'amour sur la plage, après 8 heures de lance-flammes, ça détend. C'était le bon temps. Les films de guerre, les figurants morts de rire, la gueule en sang. Aujourd'hui, double cacheton. Ceux qui tombent du pont, le charnier c'est beaucoup mieux payé. C'est devenu ça, les films de guerre. C'est devenu ça, les films de guerre. C'est ce que je préfère, les films de guerre. Bombe à retardement qui pète pile au bon moment.
Voilà, nous revenons donc pour cette émission spéciale sur le milieu ouvert avec le juge d'application des peines, Denis Vesbuche, Cécile Castelli et Fabienne Useglio, toutes deux directrices du SPIP 04 et 05, 05 et 04. Juste avant de se quitter, donc, vous vouliez nous parler de prise en charge collective.
Effectivement, lorsque nous prenons en charge les personnes qui ont été condamnées à une mesure de milieu ouvert ou une peine de milieu fermé d'ailleurs, nous individualisons au maximum la prise en charge des personnes. Alors nous recevons les personnes en entretien individuel, mais nous avons également la possibilité d'organiser des prises en charge collectives qui permettent de libérer la parole, de confronter son expérience à celle d'autres pères délinquants, en quelque sorte, et de faire avancer comme ça la réflexion. Sur le 04, en 2017, des groupes de parole ont été mis en place grâce à notre partenariat avec le XAPA, des groupes de parole sur les conduites addictives, en fait.
Le XAPA, c'est quoi ?
Le XAPA, Centre de soins et d'accompagnement. Voilà, donc ça permet en fait de faire émerger la parole. L'objectif étant de mettre en place de travailler le problème des addictions, bien sûr, et de mettre en place des stratégies d'évitement pour éviter la commission de nouvelles infractions.
Donc ça a été mis en place seulement courant 2017.
Entre 2011 et 2017.
Entre 2011 et 2017.
En 2018, on n'a pas repris les groupes de parole. On n'a pas encore eu le temps de les remettre en place. Mais c'est vraiment un type de prise en charge qui a l'utilité de se confronter à l'expérience des autres et libérer les mots.
Oui, ce qui est intéressant de voir, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que l'aménagement des peines, le suivi des personnes sous main de justice résulte d'expériences pragmatiques, et ça fait partie des choses qui ont été progressivement mises en place et qui, on se rend compte, fonctionnent en réalité. C'est-à-dire que un accompagnement psychologique qui est mené dans le cadre du service pénitentiaire d'insertion de probation, c'est une formule qui a des résultats. Alors pas sur tout le monde, pas tout le temps, mais ça fait partie des possibilités supplémentaires que l'on a d'avoir un psychologue aussi qui travaille pour le service pénitentiaire d'insertion de probation. Ça permet de rajouter un échelon, d'avoir un avis supplémentaire de quelqu'un qui n'est pas complètement extérieur, mais qui n'est pas complètement non plus dans la justice. Donc c'est progressivement que les mécanismes se mettent en place et s'adaptent de manière pragmatique.
Avec une variété aussi, ça démontre aussi, sous réserve des moyens humains, financiers, matériels, de la capacité de nos services aussi à imaginer des réponses multiples et variées. Parce que, comme on l'a évoqué, les problématiques le sont. Par définition, chaque individu est différent et ses problématiques, même si on retrouve globalement les mêmes problématiques chez les uns et chez les autres, le parcours de vie de chacun est par définition unique. Et ça nous demande aussi d'aller chercher des leviers parfois chez la personne, dans ses ressorts psychologiques. Et donc, pour aller chercher ces leviers, on imagine une variété de prises en charge pour arriver à trouver celle qui permettra de faire levier et de provoquer le déclic et qui permettra d'éviter la récidive. Donc ça nous demande aussi une capacité d'innovation et d'imagination aussi dans nos prises en charge.
Vous, ça fait pas très longtemps que vous êtes dans le métier, Cécile, toute fraîche, donc j'imagine avec plein de motivation, d'énergie. Est-ce que vous, Fabienne, qui êtes dans le métier depuis plus longtemps, vous arrive d'être démotivée, découragée parfois ?
Non, pas encore, non.
Pas encore. Non, vraiment après pas 27 ans de...
Après 27 ans d'administration pénitentiaire, non, je suis toujours aussi motivée. Et il faut vraiment garder cette motivation pour pouvoir avancer et...
C'est quand même un métier enrichissant, on fait face à de l'humain, donc chaque situation est différente. Évidemment, on fait face à de la misère et à de la difficulté affective, économique, sociale, intellectuelle, etc. Mais pas que. Et on a aussi en face de nous des personnes qui sont touchantes, qui nous apportent aussi et qui nous renvoient des choses sur nous-mêmes, qui nous permettent aussi nous-mêmes d'avancer. Et de nous questionner aussi en tant qu'individu sur ce qu'on est capable de faire, d'apporter. Et donc on est aussi dans une relation qui se nourrit de la rencontre.
Vous êtes souvent d'accord entre toutes les personnes qui collaborent ?
Non. Et ce que je suggérais tout à l'heure, c'est que il faudrait pas que tout le monde soit d'accord. La justice, justement, c'est de trouver l'équilibre entre des points qui sont différents. Donc vous avez le point de vue du parquet, qui est très souvent plus répressif. Vous avez le point de vue du service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui n'est pas complètement objectif, puisqu'il est en relation très proche avec les personnes condamnées. Et entre les deux, vous avez le juge qui va arbitrer en fonction des intérêts, avec toujours le même objectif, qui est celui de la réinsertion, qui est celui de la prévention de la récidive, et toujours à l'idée qu'on a affaire à des êtres humains, c'est-à-dire à des personnes dont qu'il faut protéger. Voilà. Donc c'est nécessaire, effectivement. C'est pour ça que les choses sont organisées de la même façon, que vous avez un service pénitentiaire d'insertion et de probation qui est indépendant, qui est un organe qui est séparé, qui agit de son côté. C'est pour ça que vous avez le parquet, qui est également séparé du juge, et que vous avez le juge. Donc c'est nécessaire. Vous avez l'administration pénitentiaire, vous avez les partenaires, vous avez beaucoup d'avis qui peuvent être différents, et il est naturel et il est très sain que chacun ait un positionnement et le conserve.
Je vous remercie, c'est le moment de se quitter. Merci de votre éclairage.
Merci à vous.
Merci de votre invitation.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.